prions. Notre Dieu, nous voulons te bénir pour l'opportunité que tu nous donnes de nous trouver devant ta parole. Les bienfaits se multiplient chaque jour et nous mettre tous ensemble à méditer, à étudier ta parole, Seigneur, c'est vraiment un grand bienfait que tu nous donnes. Quelle grâce, Seigneur, de savoir que tu es dans chaque maison, connecté ou qui va être connecté. Tu es avec nos frères et sœurs qui sont à la radio, en train d'attendre les richesses de ta parole. Nous nous recommandons tout simplement à ta grâce pour que tu nous communiques ta pensée dans ce texte. Nous sommes en train d'étudier, de méditer les événements passés il y a des milliers d'années, mais le Saint-Esprit continue à nous communiquer un message pour l'Église d'aujourd'hui, chaque jour quand nous nous tournons vers toi. Cher Saint-Esprit, continue à nous parler, nous qualifier. Merci d'utiliser ton serviteur pour nous conduire ce soir, Seigneur. Et merci pour ta présence, Père. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Amen.
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 Merci, pasteur, pour la prière. Frère Médard, pourriez-vous nous faire la lecture dans Marc, chapitre 7, à partir du verset 24 jusqu'à la fin du chapitre?
Merci, pasteur José de Canada, pour la parole. Nous allons lire dans Luc 2, Marc, chapitre 7. Versets 7, 24 à 37. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché, car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, « Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. » Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement. Et disait, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup, frère, pour la lecture. Bien-aimé, ce soir, les deux textes précédents, les deux soirées précédentes nous ont préparé à ce que nous voulons assister ce soir dans notre méditation. Il y a eu d'abord le texte sur manger sans se laver les mains. Et
Oui.
ça, c'est une remarque de la part de pharisiens et des scribes à l'endroit du Seigneur, dont les disciples mangeaient sans préalablement se laver les mains. Et le Seigneur va leur parler. Nous avons vu dans le texte d'hier soir que la question d'impureté, manger sans se laver les mains ou les aliments qu'on mange, ça, le Seigneur a dit que tout ce qui est entré dans la bouche, évidemment, ne pouvait pas souiller l'homme, mais c'est plutôt ce qui sort de l'homme. Et là, les deux textes nous préparent ce soir sur un événement assez particulier. Le Seigneur sort du territoire d'Israël pour aller à Tyr et à Sidon. Et il est clairement dit que il est entré dans une maison et il ne voulait que personne le sache. Probablement qu'il avait besoin de repos. Le motif n'est pas invoqué ici, mais ce qui est sûr est que le Seigneur s'est écarté un peu du territoire d'Israël. Il est allé en territoire païen. Et par définition, les païens ou les gentils, selon les juifs, ce sont des personnes impures parce que c'est des personnes qui n'ont pas qui ne retiennent pas la loi de Moïse ou qui ne se conforment pas aux prescriptions de la loi de Moïse. Donc, par conséquent, le Seigneur est entré dans un territoire étiqueté par la religion juive comme étant un territoire païen. Et là-dedans, le Seigneur va apporter une délivrance à une fille, et cela se fait à distance. Parce que la femme, la mère de la fille, avait entendu parler de Jésus. C'était une grecque, syro-phénicienne d'origine, et qui vient réclamer cela. Et nous allons voir comment le Seigneur a réagi par rapport à cela et pourquoi. Avant de lui apporter la délivrance, l'entretien que le Seigneur va avoir avec elle, cet entretien est-il significatif pour moi ce soir, pour toi ce soir? Pourrais-je moi-même me situer dans ce contexte-là et comment faire? Qu'en est-il de la persévérance dans la prière? Nous allons voir tous ces éléments-là. Nous avons deux questions ce soir pour nous aider à méditer. Question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Lorsque nous intervenons, tâchons le plus possible de répondre à ces questions afin de nous aider à aller à comprendre davantage ce que le texte nous dit. La deuxième question, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? En voyant ce que la femme a vécu, ou en voyant ce que cet homme sourd qui avait la difficulté à parler, le Seigneur pourrait-il aujourd'hui intervenir encore dans ma vie? Si oui, comment est-ce que je peux agir pour que le Seigneur, comment je peux me disposer pour que l'action du Seigneur soit encore visible aujourd'hui? Voilà, frères et sœurs, pour ce soir. Certainement qu'un besoin de jeter un coup d'œil rapide à ma liste. Toutes les personnes sont des personnes habituelles. Alors, encore une fois, respectons le temps, 2 minutes maximum pour pouvoir intervenir. Et évidemment, si nous en avons encore à dire, nous pouvons redemander la parole comme nous le faisons habituellement. Et la parole nous sera donnée. Voilà, frères et sœurs, pour ce soir, nous pouvons partager la parole. Papa José, vous avez la parole.
Merci beaucoup, pasteur. Frères et sœurs, je suis au verset 24, j'aimerais surtout prendre la dernière partie du verset. C'est le Seigneur, voulait que personne ne sache qu'il était là, mais il ne put pas rester caché. Bien-aimé, Marc, l'évangéliste Marc, souvent il parle de la façon dont le Seigneur se conduisait, que ce soit dans surtout les miracles, quand il guérit, il fait miracle. Il disait toujours aux gens qui étaient là de ne pas rapporter, de ne pas raconter ce qui est arrivé. Mais comme nous voyons dans ce verset, il voulait se cacher, mais il ne put pas rester caché. Et dans l'équipe de l'Europe, nous avons dit que le Seigneur, c'est la lumière. On ne peut pas cacher la lumière. On ne peut pas cacher la lumière. On ne peut pas, le Seigneur ne peut pas se cacher parce que il ne marchait pas seul. Il était toujours en groupe. Une foule le suivait. Et s'il se met quelque part pour se reposer, peut-être ici, d'autres personnes qui étaient avec lui pourraient passer et dire, voilà, on est venus ensemble, il est là-bas. Voilà, donc, oui, le secret messianique était là. Le Seigneur ne voulait pas qu'on puisse l'arrêter, ou l'introniser roi, peut-être l'arrêter dans le sens de le tuer avant le temps. Oui, tout est là. Parce que lui, il marchait toujours selon son heure. Il n'était pas comme nous qui marchons comme ça, mais lui, il avait l'heure. Et quand l'heure arrive, voilà, il se présente. Me voici pour moi. En un mot, ici, nous devons savoir que le Seigneur Jésus, il est, comme je disais, la lumière. Et il fait de nous sa lumière. Il nous a appelés, vous êtes la lumière du monde. Bien sûr, bien-aimés, nous ne pouvons pas nous cacher, même si nous voulons le faire, parce que on ne peut pas arrêter la lumière. Est-ce que nous sommes conscients de cette lumière que nous sommes ou que nous avons? Merci.
Merci, pasteur. Si on relit cela avec le verset 36, il nous dit que plus le Seigneur recommandait qu'on ne parle pas de lui, c'était une peine perdue, plus les gens en parlaient. C'est d'ailleurs, quand on regarde les Écritures, c'est une des recommandations du Seigneur la plus désobéie. Partout où ça a été question, évidemment, qu'on ne le reconnaisse pas, alors qu'il a souvent insisté qu'on ne le dise pas, c'est une des recommandations les plus désobéies en tout cas, parce que aussitôt qu'il interdit cela, les gens parlaient davantage. C'est vrai que dans le contexte, on peut aussi comprendre qu'il ne voulait pas être élevé comme le peuple juif attendait. Pour eux, le Messie, c'était le libérateur du dominateur romain. Et le reconnaître comme tel, ça équivalait évidemment à une certaine mutinerie dans la population avec les conséquences que l'on peut savoir. Donc on peut imaginer son désir de ne pas être reconnu. Mais comme vous le dites, il est lumière. Une lumière ne peut pas rester cachée en tout cas. Lorsque nous regardons le verset 25, il est dit qu'une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui. Elle a entendu parler de Jésus. Est-ce comme ça qu'elle est venue? C'est encore une fois en rapport avec ce que le pasteur vient de dire. Quelqu'un a parlé de Jésus. Et ça, c'est le bienfait du témoignage, frères et sœurs. C'est là, lorsque je méditais ce texte, je me dis, voyons le bienfait du témoignage, de parler de Jésus aux autres, même si nous-mêmes ne le voyons pas, parce que la personne qui a témoigné ou qui a parlé de Jésus, la personne qui a amené la première la parole pour Jésus, peut-être que cette personne n'était pas là présente au moment où la femme est venue, mais son témoignage a porté fruit. Lorsqu'on regarde ce que Marc dit au chapitre 3, au verset 7 et 8, il est dit que là, c'est quand le Seigneur était sur le territoire d'Israël, lorsqu'il s'est rendu avec ses disciples en Galilée, il est dit que les gens venaient de la Galilée, la Judée, Jérusalem, l'Idumée, il y en a même qui venaient de l'est du Jourdain, et encore d'aussi loin au nord, comme les territoires de Tyr et de Sidon. Et cette bonne nouvelle, toutes ces personnes qui venaient, en retournant, ils ont dû certainement parler de Jésus. C'est comme ça peut-être que cette femme est parvenue à entendre parler de Jésus. Nous avons la bonne nouvelle, nous avons la solution au problème. Et vous savez, frères et sœurs, le problème de l'homme, c'est le péché. Enlever le péché de l'homme, et c'est la paix partout à travers le monde. C'est la paix dans les familles, c'est la paix dans le quartier, partout où nous pouvons être. On peut bien avoir des armées qui sont là pour protéger, préserver la paix. Tant que le péché est là, les nations vont continuer de se faire du mal. Donc le problème de l'homme, c'est le péché. Et la solution au péché, c'est Jésus-Christ. Nous avons là une bonne nouvelle entre nos mains. Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que je fais de cette bonne nouvelle que j'ai? Il y en a qui ont pu apporter cette bonne nouvelle ailleurs. Cette femme a entendu parler, c'est comme ça qu'elle est venue vers le Seigneur. Je trouve dans le verset 25 une interpellation personnelle. Je connais ce qu'il faut faire. Je sais comment le monde peut être sauvé. Je sais ce qu'il faut faire. C'est tout simplement rendre témoignage. Le Seigneur n'a pas besoin des avocats. Il ne nous a jamais institué ou envoyé pour dire « Vous êtes mes avocats, il faut défendre ma cause. » Nous ne sommes pas des avocats. Nous sommes tout simplement des témoins. Il a dit « Vous serez mes témoins. » Un témoin, c'est celui qui dit tout simplement ce qu'il a vu, peu importe s'il est cru ou pas. Peu importe, nous voyons à la cour, lorsque le témoin est appelé à la barre, sa mission n'est pas de convaincre les juges ou les jurés. Sa mission est tout simplement de dire simplement ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a expérimenté. Le reste, c'est l'affaire de Dieu. Le Saint-Esprit seul peut convaincre, mais notre travail, c'est rendre témoignage. Papa Céline, Maman Christine, vous avez la parole.
Oui, merci Papa José pour la parole. Je suis toujours au verset 25. Je voudrais parler de cette femme qui est venue, qui a constaté que sa fille était tourmentée par un esprit mauvais. Alors, elle est venue auprès du Seigneur pour cela. Ça, c'est vraiment un exemple à suivre d'un parent qui a de l'observation. Parce que quand une personne est tourmentée par un esprit mauvais, le texte ne nous donne pas les signes qu'elle a constatés pour dire que c'est vraiment anormal. Peut-être qu'elle a constaté une colère excessive, Peut-être qu'elle a constaté comment la personne s'agite, se jette par terre. Peut-être qu'elle a constaté comment la personne fait des mauvais rêves. Mais ça, c'est vraiment un parent vraiment responsable qui sait observer et qui sait à qui se rendre pour un tel problème spirituel. Parce que des fois, l'erreur que beaucoup de parents commettent aujourd'hui, on voit une personne, un membre de famille, un parent, un mari, une femme, un enfant, un oncle, une tante, qui passe des situations vraiment anormales dans le monde spirituel, mais on va aller voir le médecin. Et le médecin se trouve devant une situation, il ne peut rien faire. Et cette femme nous donne vraiment un exemple à suivre dans le sens, un problème spirituel, un problème dans le monde des ténèbres qu'il faut gérer, c'est auprès du Seigneur qu'il faut partir. Merci.
Merci, Papa Célé. On a besoin, les parents, on a besoin du discernement que l'Esprit de Dieu nous donne de discerner certaines réactions, certains gestes, certaines manières de faire, de parler, d'agir, peuvent être autant significatifs auprès de nos jeunes que des fois nous pouvons les confondre avec les réactions habituelles des jeunes, on va dire c'est de leur âge, etc. Mais vous savez, mieux vaut demander la direction du Seigneur dans toutes choses parce que certaines réactions peuvent être inévitablement une action, une interférence avec le monde spirituel et aux effets spirituels doivent être opposés des réactions aussi spirituelles. Et cette femme, c'est ce qu'elle fait, elle va trouver de l'aide auprès du Seigneur. Frère Gaston, vous avez la parole.
Merci, pasteur José de Canada. Moi, je voudrais sauter, arriver au verset 28, je ne sais pas si vous le permettez.
Oui, allez-y, frère.
Merci beaucoup, pasteur. Je suis interpellé par l'attitude de cette femme devant la réponse qu'elle a reçue de la part du Seigneur. Cette femme pouvait se révolter et pouvait regarder dans tout le long de son territoire les dieux qui sont invoqués, mais en toute humilité, elle répond au Seigneur, reconnaissant qu'il est Dieu et ceux qui s'approchent de lui trouvent toujours la solution à leurs problèmes. J'ai vu l'image de Naaman dans 2 Rois 5. Quand il est parti voir l'homme de Dieu, Élisée, il voulait le voir, mais il reçut le message. On lui dit d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Naaman fit irrité et s'en alla. N'eût été l'intervention de ceux qui l'accompagnaient, il allait rentrer en Syrie. Encore plein d'orgueil parce qu'en Syrie, il y avait pas mal de fleuves, ainsi de suite. Mais cette femme, par contre, elle, c'est dans l'humilité et elle avait foi que, comme je me suis approché de cet homme, j'ai la solution. Elle n'a pas attendu, si on avait demandé à cette femme quelque chose de très difficile, Naaman s'attendait à quelque chose de très difficile, de spectaculaire. Mais elle s'est contentée dans cette humilité-là et elle a cru. Même quand le Seigneur lui a dit, comme tu as, suite à cette réponse, retourne chez toi, ta fille est guérie, elle pouvait se dire, Jésus-Christ, c'est Jésus s'est moqué de moi, ainsi de suite, Je pensais qu'il pouvait faire quelques scènes, mais elle est rentrée tout en gardant sa confiance en Jésus-Christ, que comme il lui avait dit, il allait trouver sa fille réellement guérie. Je suis interpellé et cela confirme une fois de plus que quelle que soit la situation dans laquelle je peux me trouver, si je m'approche de Dieu, je trouverai toujours la solution. Amen.
Amen. Merci beaucoup, frère. Dans ce que vous venez de dire, je trouve l'enracinement de l'attitude de la femme dans le verset 25, parce qu'il est dit, cette femme entendit parler de Jésus. Mais qu'est-ce qu'elle avait entendu sur Jésus? Si nous regardons encore, je pense, même le dernier verset, la réaction des gens à Tyr ou ailleurs peut toujours être la même parce qu'on dit « il fait tout à merveille ». Lorsque quelqu'un est allé juste dire « nous avons rencontré un certain Jésus de Nazareth, il fait tout à merveille ». Et cette femme doit avoir entendu cela et s'est dit ben, « c'est la personne vers qui je peux me tourner ». Donc, sa persévérance, son attitude trouve, selon moi en tout cas, l'enracinement dans ce qu'elle a entendu. Puisse le Seigneur bénir notre langage, frères et sœurs, de telle manière que lorsque nous rendons témoignage, que les paroles du Seigneur soient vraiment utilisées pour susciter, pour créer la foi auprès de ceux et celles qui nous entendent. Merci beaucoup, frère. Je vais donner la parole au frère Jean-Baptiste.
Merci, pasteur José, mais c'est pratiquement sans objet puisque vous avez tout dit. Bon, néanmoins, je vais quand même relever, mais vous avez tout dit. Donc, ici au verset 28, je trouve vraiment un exemple de persévérance, un exemple à suivre. Et là, je réponds à la question 3. Y a-t-il un exemple à suivre, à ne pas suivre? Mm-hmm. Je constate qu'il y a un exemple à suivre, c'est l'exemple de la persévérance. Parce que cette femme s'est retrouvée devant une épreuve, devant un obstacle. Elle pouvait rentrer, mais elle s'est dit, cette personne est Dieu, il faut que j'insiste, il faut que je persévère. Et j'ai fait un peu rapidement une connexion avec Anne, la maman de Samuel. La Bible dit que cette femme, c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Elle connaissait son sort. Dieu l'avait rendue ainsi. Mais bien qu'ayant cette connaissance, bien que sa stérilité venait de Dieu, mais elle persévérait dans la prière, elle appuyait le Seigneur, et finalement le Seigneur, qui est compatissant, a changé d'avis. Donc je trouve vraiment un bel exemple de persévérer devant les obstacles, de continuer à persévérer parce que le Seigneur est tellement compatissant que... Et en tout cas, il finira par avoir pitié de moi par rapport à mon insistance. Amen.
Amen. Merci beaucoup, frère. Elle a su aussi saisir l'occasion. Ce n'est pas tous les jours que Jésus visite les territoires de Tyr et Sidon. Elle s'est dit, c'est aujourd'hui l'occasion, alors j'ai saisi aussi cela. Merci beaucoup, frère. Je redonne la parole au pasteur José.
Oui. Merci beaucoup, pasteur. Bien-aimé.
La famille Chibert, officiellement, la fondation Robert Chibert.
Bien-aimé, je trouve que cette femme, avant d'entendre le Seigneur lui parler de cette manière, cette femme avait manifester son esprit d'humilité lorsque, au verset 25, elle vint aussitôt vers lui, vers le Seigneur, et se jeta à ses pieds. Elle se jeta aux pieds du Seigneur, puisque le Seigneur est grand, le Seigneur est Dieu. Il l'adore de cette manière. Elle s'humilie, de cette façon-là. Deuxièmement, au verset 26, elle pria Jésus de chasser l'esprit mauvais hors de sa fille. Et pourtant, sa fille est restée à la maison. Sa fille est restée à la maison, mais elle prie le Seigneur de chasser le mauvais esprit. Encore là, on voit la foi de cette femme. La femme a dit, même ici, en étant ici, que Jésus peut chasser les démons ou le mauvais esprit qui est dans ma fille. Donc, bien aimé, c'est extraordinaire. Et ce n'est pas étonnant lorsque le Seigneur lui dira tout ce que nous savons. Elle a saisi dès le premier abord que non, le salut est ici. Je me jette par terre. Le salut est ici. Je peux supplier le Seigneur Jésus. Il peut à distance chasser les démons se trouvant dans ma fille. Mais c'est un exemple, encore un exemple à suivre, un exemple de foi, de faire quelque chose d'extraordinaire. Elle a fait. Elle a fait. Seigneur Jésus, tu es ici, ma fille est restée à la maison, je te prie de chasser les démons. Et le Seigneur a fait, malgré les hésitations, il savait, le Seigneur savait. Voilà, bien aimé, ça m'a touché et vraiment, c'est un exemple à suivre. Merci.
Merci beaucoup, Pasteur José. Pour passer le moment, Christine, vous avez la parole.
Oui, merci, Pasteur José du Canada, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis... Papa, je peux amorcer la deuxième partie?
Oui.
Oui. Donc, je dirais un petit mot au premier miracle, disons. Je vois que Jésus réellement n'est pas venu pour les Juifs seulement, mais il est venu pour les païens. Nous savons, quand nous avons étudié Ézéchiel 26, le chapitre 26, nous avons vu comment... Le Seigneur prophétisait contre Sidon, donc ce sont des territoires et du païens. Ces gens ne connaissaient pas, n'étaient pas des Juifs, quoi. Mais Jésus est venu pour eux. Parce que moi, quand je vois il est parti à Tyre, Sidon, est-ce que c'est un hasard? Non. Le Seigneur s'est trouvé, s'est guérir même les païens. Il était venu expressement pour ces gens. Il voyait en tant que Dieu... Cette femme qui avait besoin, qui avait, bien qu'elle était païenne, mais il y avait quelque chose. Quand elle a entendu la parole, elle a cru que ma situation, comme le disait le pasteur Sélé, l'observation que la situation de ma fille ne sera guérie qu'auprès de cet homme. Et nous voyons, il va partir en passant par Décapole. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de miracles là-bas. Il va à Sidon. Toujours, il va croiser une situation, disons, une personne en difficulté qui a besoin d'aide. Pour dire que notre Dieu, du haut de son trône, il veut faire du bien à tout le monde. Donc, il n'a pas d'exception. Ce n'est pas seulement des Juifs, non. Il voit nos cœurs et il peut se déplacer pour rencontrer notre besoin. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Si nous regardons dans Ésaïe 56, tous les chapitres parlent ici de tous ceux et celles qui se pensent inutiles, ceux dont le Seigneur ne peut faire aucun cas. Le Seigneur leur dit dans ce texte-là, pour moi, c'est un peu comme l'évangile de l'Ancien Testament, parce que le Seigneur va dire, tous ceux-là qui ne sont pas de mon peuple, mais qui m'aiment, et qui veulent s'attacher à moi, le Seigneur dit, je leur ferai aussi une place au milieu de mon peuple. Je leur donnerai aussi accès à toutes les bénédictions auxquelles mon propre peuple a droit. Il est vrai aussi, frère et soeur, que nous sommes dans la deuxième partie qui commence avec le verset 31, lorsque le Seigneur quitte les territoires de Tyr et Sidon. mais il est toujours, on peut dire que pratiquement, c'est vrai que le deuxième miracle dont on vient de parler, il peut s'être réalisé sur les territoires d'Israël, mais l'idée qu'on a au verset 31, c'est que le Seigneur quitte les territoires de Tyr et Sidon et il s'en va maintenant vers Galilée, mais en traversant le pays de la Décapole. La Décapole n'est pas encore en Israël, c'est toujours à l'extérieur. C'est là qu'on lui amène un sourd. Donc, il se pourrait que le deuxième miracle ait eu lieu encore sur un territoire païen. Donc, on peut dire que la méditation, ce soir, pratiquement, c'est des actions de la part du Seigneur, mais sur des territoires à l'extérieur d'Israël. Je redonne la parole au frère Jean-Baptiste.
Oh, merci, pasteur José, pour la parole. Je reviens au verset 29 et 30 où je réponds à la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Donc, je constate que notre Dieu demeure à jamais fidèle. Ta parole ne passe jamais. Comme disent les Écritures, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il a dit à la femme, va, le démon est sorti de ta fille. Et au verset 30, la femme est allée trouver la situation telle que le Seigneur l'avait dit. Et nous connaissons aussi l'histoire du centenaire romain, comment le Seigneur avait guéri à distance. Donc notre Dieu est fidèle. Et pour moi, je me dis, quelle est maintenant ma réaction par rapport à la parole du Seigneur? Cette parole aujourd'hui, elle est illustrée par la Bible. Est-ce que je fais confiance à la parole du Seigneur? Est-ce que je continue à croire à la fidélité de Dieu? Je suis vraiment exhorté à croire à la fidélité de Dieu. Même si ça traîne, c'est une parole qui finira par s'accomplir. Parce que notre Dieu, il est au contrôle de toutes choses. Donc vraiment, je tire deux grandes vérités, la fidélité de Dieu et la confiance que je dois continuer à faire à ce Dieu qui est fidèle, car sa parole ne passera jamais. Amen.
Amen. Merci frère. Dans les deux cas cités ici, par exemple au verset 29, mais aussi le cas du centenier romain, ce sont les deux cas, quand on regarde les textes équivalents dans les autres évangiles, ce sont les deux cas qui ont étonné le Seigneur. La Bible dit que, autant dans le cas de cette femme, Marc ne cite pas explicitement cette réaction du Seigneur, mais dans Matthieu et ailleurs, on trouve le Seigneur qui dit, il est dit de lui que Jésus fut étonné de la foi de cette femme, mais aussi le centenier romain, les deux cas pour lesquels le Seigneur a publiquement déclaré, il a rendu, on peut dire, hommage à ces deux personnes qui sont en fait des païens, qui ne sont pas juifs. Le Seigneur dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. Donc le Seigneur a rendu vraiment témoignage à la fois de cette femme, mais aussi à la fois du centenier romain. Ce qui veut dire, frères et sœurs, vraiment, Christine venait de le dire tout à l'heure, là où il y a la foi, le Seigneur intervient. Dieu honore toujours la foi.
Amen.
Peu importe de qui elle vient, le Seigneur, ce sont faibles. Là où il y a la foi, le Seigneur intervient. Ce qui veut dire, vous vous souvenez de tout ce que, de combien de fois le Seigneur a pu dire aux gens, va qu'il te soit fait selon ta foi. En d'autres termes, ce que je crois de ce que Dieu dit, ce que je vais aussi vivre, ce que je vais aussi réaliser. En tout cas, un très bel exemple à suivre. Merci, frère. Je redonne la parole à Papa Célé ou Maman Christine.
Oui, merci encore pour la parole, Papa José. La réponse du Seigneur au verset 27, ça m'interpelle beaucoup dans le sens que cette femme vient pour chercher la guérison pour sa fille qui est tourmentée. Combien de temps? Peut-être longtemps, mais elle est vraiment dérangée en tant que parent de venir auprès de la personne dont elle a entendu parler dans la région. Tout le monde parle de cet homme, et quand il passe par là, elle se dit, non, il faut que je vienne voir cette femme. Mais la réponse, on dirait même une injure.
Mm-hmm.
Alors, le Seigneur lui dit, laisse d'abord les enfants manger à leur faim, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux chiens. Vraiment, ça, c'est fort. Et c'est le Seigneur qui le dit. Et il utilise vraiment, il parle en parabole pour leur dire qu'il faudra attendre le temps quand tout sera accompli à la croix. En ce moment-là, le bénéfice du salut sera pour tout le monde. Mais c'est très tôt pour vous maintenant.
Mmh.
Mais maintenant, c'est sa réponse. Elle dit, mettre même les chiens vers la table mangent les miettes que les enfants laissent tomber. Et ça, c'est une persévérance qui doit vraiment nous enseigner.
Mm-hmm.
Mes frères, aujourd'hui, nous voulons, à la moindre difficulté, nous voulons abandonner, nous voulons tout casser. Et nous ne savons vraiment pas persévérer. Pourtant, le Seigneur a enseigné en Luc 18, quand il a donné la parabole du juge unique, qu'il faut toujours prier et jamais se fatiguer, jamais abandonner. Et c'est ça qu'il veut montrer à cette femme. Il veut voir son endurance dans la prière. Et elle n'a pas lâché, et à cause de la confiance qu'elle a, de même les paroles de confiance qu'elle sort de sa bouche, le Seigneur dit, à cause de ce que tu déclares là, tu as la solution à ton problème. Qu'est-ce que nous avons l'habitude de déclarer, frères et sœurs? Et nous déclarons toujours, non, ça ne va pas, ça ne marche pas, ça n'ira pas. Ce que nous déclarons a un grand effet auprès de Dieu.
Mm-hmm.
Le Seigneur va lui dire, à cause de ce que tu as déclaré là, tu vas voir la réponse. Et déjà là, sur la route, allez à la maison, tu trouveras ton enfant guéri. Apprenons à confesser la victoire. Apprenons à confesser que Dieu n'est pas mort, Dieu est vivant, Dieu continue à travailler. Et ce que nous déclarons, le Seigneur prend acte et agit. Amen.
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 Merci beaucoup. Merci, Papa Célé. Lorsque je considère la réponse de la femme, c'est vrai, si cela m'était dit, probablement je me serais laissé offusquer. Je suis sensible peut-être à certaines choses, peut-être que j'aurais abandonné. Mais non, elle continue. Elle va même dire au Seigneur. En fait, à son avantage, le Seigneur reconnaît deux choses. La première, c'est que elle montre au Seigneur, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Je ne suis pas juif. Tu es venu d'abord pour les juifs. Donc, je peux comprendre qu'il faut que tu t'occupes d'abord pour ceux et celles pour qui tu es venu. Deuxièmement, cette femme va alors dire, ok, admettons que par rapport aux juifs, je suis comme un petit chien. Mais les chiens mangent les miettes qui tombent. Ces miettes-là, ils sont de la même qualité que le pain que les enfants mangent. Et elle dit au Seigneur, je ne veux peut-être pas du pain. Ne me donne pas du pain. Réserve-le pour les enfants de la maison. Ce que je voudrais, Seigneur, c'est même des miettes. Comme pour dire, une miette qui vient de toi suffit à combler tous les besoins de ma vie. Et c'est ce que le Seigneur lui accorde. Un gâteau du ciel a nourri le prophète Élie pour 40 jours et 40 nuits. Juste un gâteau. Bien-aimés, ce qui vient du ciel, ce qui vient du Seigneur, même si c'est peu, ça suffit amplement à nos besoins terrestres aujourd'hui. Je vais donner la parole au frère Albert.
Merci, frère pasteur, pour la parole. Je suis également au verset 28. Et là, tout le passage, moi, je suis étonné, je le prie, mais bon, une révélation forte par rapport au caractère de cette femme, non seulement les dimensions de la foi, mais l'amour qu'elle porte pour sa fille. Évidemment, cet amour pour nous qui sommes parents et tout le monde qui aime quelqu'un, c'est un amour qu'on décrit. Cette femme, quand elle s'offre à ce qui semble, comme le frère pasteur l'a dit, à une insulte de Jésus ou une humiliation, elle le fait du fond de son cœur à cause de l'amour que le porte pour cet enfant. Tant mieux si cet enfant grandissant, elle va reconnaître cette femme. Tant mieux si cet enfant grandissant, elle va être obéissante. Ce serait un souhait qu'elle soit reconnaissante à l'amour de sa mère, aux souffrances de sa mère, ou tout ça. Mais parce que, d'abord, elle est responsable de cette fille en tant que parent. Deuxièmement, parce qu'elle a donné naissance à cette fille. Elle a investi dans cette fille. Ou troisièmement, elle aime cette fille. Elle est prête à aller au-delà où il faut même subir les humiliations et voire même la mort. Ceci me révèle exactement l'amour que le Seigneur a pour nous. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il savait très bien que ce n'est pas tout le monde qui va l'accepter. Ce n'est pas tout le monde qui va obéir à sa parole. Ce n'est pas tout le monde qui le suivra. Mais il s'est offert espérant qu'un jour, Albert ou quelqu'un d'autre pourrait être reconnaissant à cela. La question que je me pose, suis-je conscient des sacrifices de Jésus-Christ comme cette femme pour son enfant? Et qu'est-ce que je fais en retour de tout ce qu'il a subi pour moi? Merci.
Merci beaucoup, frère. J'ai trois mains qui sont levées. Ça va être les dernières. Je vais commencer d'abord avec le frère Médard. Ensuite, ce sera le pasteur José. Et à la fin, Papa Célé ou Maman Christine. Frère Médard.
Oui, merci, pasteur José de Canada, pour la parole. Je suis au verset 33. Il prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Bien-aimé, je vois ici la souveraineté de notre Dieu. On lui a posé un problème. Lui, il n'a pas une solution magique. Il n'a pas une solution préconçue. Les gens l'ont amené, ils ont intercédé pour le sourd-muet. Ils ont dit, impose-lui la main. Je vois la différence dans toutes les guérisons que Jésus a effectuées. C'est différent. Donc, je veux dire, j'ai compris dans cela que Jésus est exceptionnel. Il n'a pas une formule figée. Il peut faire tout à n'importe quand, de sa façon. Donc, Dieu a notre problème. Il y a des gens qui intercèdent pour nous. Nous intercédons pour les autres. Mais à chaque problème, Dieu donne la solution. C'est comme les autres disent que la foi, la confiance au Seigneur, Dieu a toujours une solution de sa façon. Nous pouvons penser que la solution viendra de ce côté-là, mais lui donne de ce côté-là et c'est toujours bon. Donc, j'ai toutes les raisons d'avoir confiance en Jésus-là qui donne la solution de sa façon. Et par la salive, par la boue, par la parole, même à distance, il guérit. Et Dieu est fidèle. Amen.
Merci, Médard. Papa José, vous avez la parole.
Merci. Je suis aussi au deuxième miracle, au verset 32. On lui amena un homme qui était sourd et avait de la peine à parler. On le supplia de poser la main sur lui. Ici, Bien-aimé, j'apprends que le miracle, que ce soit celui-ci, celui de du sourd-muet et de la fille de l'étrangère, ces miracles ont eu lieu grâce aux autres personnes. La maman est allée voir le Seigneur pour sa fille. Et puis les amis ou la famille ont amené ce sourd muet au Seigneur. Et le Seigneur, pour les deux cas, il a guéri. Ceci, c'est pour me dire et nous dire que nous devons continuer à prier pour les autres, à prier pour, à intercéder pour les autres. Et le Seigneur, dans sa grâce et dans son amour, il lui répondra. Puisqu'il a répondu ici, et il répondra aussi pour nous. Merci.
Merci beaucoup, pasteur. Je vais passer, maman Christine, vous allez peut-être attendre un petit peu. Je viens de voir la main du frère Thomas. Comme il n'a pas encore dit, moi, je vais lui donner la parole. Frère, vous avez la parole.
Je suis dans ce premier miracle de la femme cananéenne. Et d'abord, j'admire que son enfant... Et le fait que son enfant a les mauvais esprits, elle reconnaît que l'enfant a les mauvais esprits et elle part chez Jésus. Aujourd'hui, si notre enfant est tourmenté, il a des mauvais esprits, on peut être gêné pour ne pas dire qu'il a des mauvais esprits à l'église, y compris pour l'enfant. Mais nous ne devons pas être gênés. S'il y a un problème, même que ce soit de stérilité, un problème de, parce que ça ne va pas nous gêner d'amener le cas à Jésus. Ensuite, cette femme, dans notre compte de Matthieu 15-21, il est dit que le Seigneur Jésus l'a ignoré, les disciples l'ont ignoré, le Seigneur Jésus ensuite lui a dit que il n'était pas envoyé chez les païens, mais plutôt chez les juifs. Après, il a continué. Ensuite, Jésus va lui dire que la nourriture, c'est pour les enfants, pas les chiens. Mais malgré tous ces défis, elle a persévéré. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Aujourd'hui, je vois que plusieurs parfois, les gens, je rencontre, je demande, on ne te voit plus à la prière, qu'est-ce que c'est? Oh non, j'ai quitté parce qu'un tel a dit ceci. Un tel m'a dit cela. Et on quitte l'église, on quitte l'étude biblique, on quitte le groupe où on est enseigné de Dieu à cause d'une personne qui aurait dit ou qui aurait fait quelque chose. Mais ici, cette femme a traversé beaucoup d'obstacles, elle a persévéré et à la fin, le Seigneur lui accorde la grâce. Donc je voulais seulement souligner cette persévérance, mais aussi l'honnêteté spirituelle de dire qu'il y a un cas de possession démoniaque, je dois aller à Jésus. Merci.
Merci beaucoup. Papa Célé ou Maman Christine, vous, si vous voulez intervenir, vous avez une minute pour pouvoir le faire.
Non, merci papa. Vous pouvez clôturer. On okay. A plus de temps. Merci.
Merci beaucoup. Alors voilà, frères et sœurs, pour ce soir, deux miracles accomplis sur le territoire païen à l'extérieur d'Israël et le partage, les éléments qu'on a pu voir, il y a beaucoup d'exemples à suivre, notamment cette femme comme parent, elle vient plaider pour son enfant, ce qui est hautement encore recommandé aujourd'hui. Nous avons tellement de choses à demander au Seigneur pour nos enfants. Nous pouvons bénéficier de la part du Seigneur, du discernement, pour comprendre où en sont nos jeunes aujourd'hui, où en sont nos enfants aujourd'hui. Et dès que nous détectons quelque chose, avec l'aide du Saint-Esprit, courons vite vers le Seigneur pour pouvoir obtenir l'intervention dont nous avons besoin. Un membre de famille, un ami, une personne que nous aimons, est-il, est-elle loin de nous? Ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Plusieurs miracles ont été accomplis par lui à distance, comme dans ce cas aussi. Nous avons vu que une des choses importantes qui a bénéficié dans l'intervention du Seigneur auprès de cette femme, c'est hautement son caractère positif, sa foi, sa reconnaissance de ce que le Seigneur est capable de faire, les déclarations qui viennent de sa bouche. Nous venons d'entendre, elle a été ignorée, elle a été pratiquement humiliée. On a vu que c'est comme des insultes qu'elle a essuyées, mais malgré ça, elle a persévéré. Et le Seigneur lui a donné la victoire, elle est retournée victorieuse, comme le texte le dit ailleurs, le Seigneur a même rendu hommage à sa foi, parce que d'elle, le Seigneur a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Frères et sœurs, cette femme, elle est comme vous, elle est comme moi. Vous n'avez peut-être pas une fille possédée, vous avez peut-être un autre sujet pour lequel le Seigneur peut intervenir. Même si nous sommes à distance, avec la personne ou pas, mais le Seigneur, lui, il n'y a pas de distance physique entre lui et ce qu'il peut faire. N'est-il pas écrit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver? Ton oreille n'est pas dure pour entendre. Ta main, elle n'est pas courte, donc il peut l'étendre même jusqu'aux extrémités de la terre pour sauver quelqu'un pour qui nous prions. Nous voyons que le Seigneur fait tout à merveille, comme le dit le dernier verset. Il fait tout à merveille. S'il ne change pas, et nous savons qu'il ne change pas, alors aujourd'hui encore, il fait à merveille. Il peut intervenir merveilleusement dans votre vie. Nous devons lui faire confiance et persévérer dans la foi et dans la prière. Voilà pour ce soir. Je vais donner la parole à Papa Célé pour les annonces. Et Papa José, pourriez-vous prier pour nous à la fin, s'il vous plaît?
Oui, merci Papa José pour la parole. Juste saluer les frères et sœurs qui sont à la radio depuis Massachusetts, Missouri, North Carolina et puis au Canada, Alberta et aussi le Québec. Merci.
Merci.
Nous prions Dieu. Notre Père Céleste, le Dieu de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous sommes dans la joie ce soir d'apprendre que toi, tu agis à distance. Il n'y a aucune maladie qui t'a résisté. Tu es venu chercher non seulement les Juifs, mais aussi les non-Juifs que nous sommes. Nous pouvons ouvrir notre cœur à toi et tu peux entrer. Nous pouvons prier pour nos bien-aimés frères et sœurs. Tu peux entendre nos prières. Oh Seigneur, quelle joie! Chacun de nous a ses problèmes. Ce message peut nous donner le courage de continuer à prier parce que tu es le Dieu qui entend, qui écoute et le Dieu qui agit. Nous dormons, Seigneur, dors avec nous. Nous savons que toi, tu ne dors pas. Tu ne dors ni ne sommeilles. Tu veilles toujours sur tes enfants que nous sommes. Merci pour tous les combats que tu vas livrer pour nous pendant le sommeil. Seigneur, merci. Nous prions pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus. Seigneur, que tu te montres à eux comme tu t'es montré à nous. Nous avons reçu ta grâce. Nous prions pour que eux aussi puissent la recevoir. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous dès maintenant et à jamais. Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour la prière. Demain, nous continuons avec, nous commençons le chapitre 8. Nous allons méditer les 13 premiers versets et nous aurons les questions 2 et 7 pour nous aider dans notre méditation. Bonne nuit à tout le monde et à demain.
Bonne nuit.